Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'assurance dans le milieu cyber. On rebondit un petit peu sur l'actualité aussi, du fait essentiellement de la modification du code des assurances concernant le principe d'assurer le risque cyber en fonction qui va maintenant être couvert par les assurances. Le risque cyber, en particulier le chiffrement des données, va être couvert. Maintenant, on va aborder le sujet avec Flore Lassalle, président directeur général de Kemac l'assurance, donc c'est son cœur de métier, et deux avocats qui sont Mathieu Martin, avocat associé au cabinet Bismuth, et Nathan Soulier, qui est avocat associé chez Bird and Bird. Ben, Mathieu?
Oui, bonjour à tous. Alors, juste donc, comme l'a dit Philippe, on va parler un petit peu d'assurance. Finalement, avoir une assurance et faire de la cybersécurité, c'est aussi pour répondre à quoi, entre guillemets, d'un point de vue juridique? C'est finalement des questions d'intégrité, de disponibilité, de confidentialité. Pourquoi? L'intégrité, c'est finalement éventuellement un patrimoine informationnel dont vous êtes dépositaire, que vous devez garantir. La disponibilité, c'est une continuité de production, que ce soit vous en interne par rapport à des services privés et des tiers. Et la confidentialité, finalement, c'est le fait de dire, patrimoine informationnel, des données collectées pour des tiers, je dois en assurer une préservation et donc une non-divulgation, ou en tout cas une divulgation contrôlée. Et bien évidemment, plus les technologies évoluent et plus les cas d'usage évoluent, plus ces événements sont potentiellement à risque. On l'a vu avec le télétravail, qui est plus d'ailleurs du home office que du vrai télétravail. On le voit de plus en plus, enfin, déjà depuis quelques années avec l'IoT, et aussi finalement tout ce qui est infrastructure externalisée, où on a toujours une interrogation à avoir. Donc voilà, donc c'est ces éléments-là, plus spécifiquement d'un point de vue juridique, là. Votre continuité dans l'outil de production, c'est soit je délivre un service public, soit je délivre un service à titre privé, mais de toute façon, c'est mon activité. Le savoir-faire, il faut savoir que juridiquement, c'est une notion qui est définie dans le code de commerce, c'est ce qui est normalement confidentiel, donc non accessible. Donc, dit autrement, un savoir-faire qui n'est plus confidentiel n'est plus protégeable comme un savoir-faire. Donc, c'est là où on rentre en compte la notion de confidentialité par rapport à, comment dirais-je, justement des compétences. Un art particulier que peut avoir une société qui n'est pas protégée non plus par un titre de propriété industrielle, que ce soit un brevet ou autre. Et enfin, tout ce qui est mis en place, donc on va dire l'accountability qui était du RGPD, donc encore et toujours le RGPD, on parle encore du RGPD, ce sont donc des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Il faut bien savoir que l'objectif, c'est effectivement de mettre en œuvre de telles mesures pour éviter que des données à caractère personnel ne soient déformées, qu'on porte atteinte à leur intégrité ou ne soient divulguées, mais on n'a pas de référentiel technique en tant que tel. La réglementation ne fixe aucun référentiel technique. La seule chose, c'est on est entre guillemets par rapport à l'état de l'art, sachant que l'état de l'art est fluctuant, bien évidemment, il évolue à chaque fois, mais par rapport à des mesures de sécurité et adapté aussi à la typologie de données. Et autrement, comment dirais-je? Les données RH de la DGSE pour savoir qui est en sous couverture ou autre, c'est un petit peu plus sécurisé que le fan club de joueurs de boules du dimanche pour savoir qui a payé sa cotisation. Donc c'est ça une mesure entre guillemets appropriée par rapport à des données. Et donc, bien évidemment, finalement, tout ceci a une conséquence financière. Alors, ransomware, on paye ou on ne paye pas, on ne va pas rentrer dans le débat pour le moment, mais il y a effectivement cette problématique de couverture assurantielle. Tout ce qui est sanctions dites réglementation sur les données à caractère personnel. Deux types de sanctions. Il y a la sanction administrative, c'est n'est pas mis en œuvre des mesures de sécurité adaptées, donc j'ai une sanction par l'autorité de contrôle. En France, la CNIL, qui peut s'élever à quelques milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros. Et à côté, j'ai le potentiel risque de toutes les personnes qui ont vu leurs données divulguées, qui vont alors agir aussi en disant, moi j'ai subi un préjudice du fait que mes données désormais sont accessibles sur le web. Donc, il y a un double risque financier. Et enfin, le risque financier qui existe, c'est je devais délivrer une prestation, je ne la délivre pas, j'ai engagé ma responsabilité, Et donc, finalement, j'ai mon co-contractant qui dit je n'ai pas eu la prestation, j'engage votre responsabilité. Enfin, dernière chose, il faut savoir aussi que tout ce qui est traitement, entre guillemets, de données, comment dirais-je, sans cadre légal, peut donner lieu à des poursuites pénales. Donc là encore, possibilité, comment dirais-je, d'amende et éventuellement de partie civile qui sollicite une indemnisation d'un préjudice. Donc globalement, c'est le spectre qui est vu, sachant que, autre chose aussi, le fait que je n'exécute pas ma prestation, ça a une double conséquence. Ça a une conséquence vis-à-vis des tiers éventuellement si j'avais un engagement. Et ça a aussi une conséquence vis-à-vis de moi parce que j'ai des pertes d'exploitation, je ne produis plus et donc je subis un préjudice.
Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les polices d'assurance dites traditionnelles ne couvrent pas le risque cyber. Vous avez votre police dommage qui va vous assurer donc l'ensemble des bâtiments sur des aléas, incendies, dégâts des eaux, vols. Vous avez votre partie, votre programme responsabilité civile qui va assurer donc toute votre activité, tant sur la partie exploitation que sur le produit après livraison. Mais par contre, toute la partie cyber et les conséquences liées à une attaque cybercriminalité font l'objet d'une assurance vraiment particulière. Hein, donc c'est là, il faut vraiment qu'on insiste sur le sujet parce que on a encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui pensent que la perte d'exploitation consécutive à une attaque cybercriminalité est couverte par leur contrat d'assurance principale, ce qui n'est pas le cas. Hein, donc on insiste vraiment régulièrement sur ce sujet-là. Donc ça, c'est quand même important vraiment d'insister là-dessus. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que couvre vraiment un contrat cyber et ses spécificités. Donc, il faut savoir qu'on a les dommages immatériels liés au système d'information qui sont consécutifs donc dans un sinistre qui aurait été lié à un acte de malveillance, une erreur humaine, un accident, une panne. Quand je parle de l'erreur humaine, ça peut être vraiment le collaborateur qui revient de congé d'été, qui prend la clé USB, qui veut montrer ses photos de vacances, il ne sait pas qu'il a ramené un virus. Donc, on a des exemples concrets. Là, sur la responsabilité civile pure, donc c'est en cas d'atteinte à la vie privée, à la confidentialité des données, en cas d'atteinte à la sécurité des réseaux et aussi l'accompagnement qui est lié à une atteinte médiatique. Il y a un fonds d'assistance qui est aussi couvert par les contrats d'assurance cyber, hein, puisque on va venir financer toute la partie gestion de crise. Donc la mise en place d'un coach, tous les frais d'investigation, les frais de monitoring, les frais de négociation aussi auprès de la CNIL, hein, les coûts de notification, toutes les sanctions, les réglementaires, la cyberextension, l'éventuelle indemnisation au titre d'un ransomware et toutes les pénalités PCI DSS qui peuvent être prises en charge, bon, au travers aussi d'un plafond de garantie, bien évidemment, hein, on n'est pas sur des garanties qui sont illimitées, hein. Et puis après, vous avez des extensions possibles au travers des contrats cyber, mais qui ne seront pas le sujet aujourd'hui. C'est toute la partie fraude et la tout-risque informatique. Alors, comment ça va s'organiser au niveau de l'assistance en cas de sinistre? Il faut savoir que, quelle que soit la typologie de l'entreprise, qu'on soit dans une entreprise de service, dans une entreprise industrielle, dès qu'on a connaissance d'une attaque, va y avoir une ligne qui va être mise en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir déployer des services immédiats, pour pouvoir justement à la fois prendre en charge toute la partie communication si on a un préjudice vis-à-vis des tiers immédiatement pour limiter finalement l'impact médiatique, de pouvoir aussi immédiatement pouvoir gérer finalement et moduler un chef d'orchestre qui va pouvoir finalement organiser toutes les parties prenantes, que ce soit sur une entreprise qui va faire le travail justement de monitoring, le travail aussi de recherche finalement du virus et de l'éradication, de comprendre exactement d'où c'est venu aussi, parce que ça c'est important. La majorité des sinistres cyber, il faut qu'on en connaisse la réelle cause pour justement, finalement, que ça ne se reproduise pas dans l'entreprise qui a eu cette attaque. Puisque derrière, il y aura forcément des retours d'expérience. Donc, on a tout un tas de panels de fournisseurs indépendants qui offrent tout l'accompagnement, donc au niveau de l'accompagnement de services légaux, de l'informatique forensique, un centre d'appel qui est mis à disposition aussi des clients tiers finaux, que ce soit du B2B2C ou du B2C directement. Les relations de crise et puis aussi tout ce qui est lié à l'usurpation d'identité. Le but est vraiment d'avoir l'ensemble d'un panorama à 360 degrés pour gérer le périmètre, rassurer les clients pour que la médiatisation et l'impact, on va dire que l'impact soit le plus réduit possible et qu'on ne se retrouve pas finalement une entreprise qui peut être mise par terre par justement cette problématique d'attaque cyber. Il faut savoir que beaucoup de clients et même de fournisseurs sont très inquiets quand ils travaillent avec une entreprise qui a une attaque cybercriminalité parce que forcément, il y a une inquiétude aussi par rapport à leurs données. Donc, il faut rapidement quand même remettre en état les relations de façon à ce que ça se passe très bien. Alors pour l'équipe d'intervention très spécifique, donc on va avoir dans un premier temps une hotline messagerie. Donc la hotline va être vraiment là pour pouvoir vraiment accueillir les premiers appels et de pouvoir intervenir très rapidement et mettre en œuvre tout le process. Le coach, dont je vous parlais, qui est le chef d'orchestre, va faire l'analyse, le conseil, les premières mesures d'urgence et surtout dans l'entreprise de définir une équipe d'intervention. Vous aurez l'équipe d'intervention qui est externe et également les relais en interne. Il faut savoir que les entreprises ne sont jamais vraiment complètement préparées à une attaque cyber. Il faut vraiment que dans l'organisation, on ait identifié les personnes qui puissent justement retranscrire l'information le plus rapidement possible. Donc, l'équipe d'intervention, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on ne va pas revenir dessus. Toutes les notifications et les informations sont faites régulièrement, tant auprès de l'entreprise, dans tout ce qui est nettoyage et remise en état du système d'information, tant que sur la communication qui est faite vis-à-vis de l'extérieur et également le retour qui est fait a posteriori ici au niveau de l'indemnisation, tant sur le montant de la réclamation qui est faite vis-à-vis des tiers, que sur toutes les pénalités ou amendes réglementaires qui auraient pu être mises en cause lors de ce sinistre. Alors, on va rentrer, je pense que c'est là où on va pouvoir après répondre à l'ensemble des questions. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est de, pour vous, que ce soit un petit peu plus concret, c'est les exemples de sinistres qu'on a pu vivre et qu'on vit encore régulièrement. Il faut savoir que post-Covid, on a eu une augmentation donc des attaques cyber de plus de 300%, notamment sur la partie ransomware. Là, je vais vous donner vraiment des exemples de sinistres concrets qu'on voit régulièrement. C'est une entreprise de BTP qui a un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros, donc pas une petite structure, qui finalement a eu un ransomware impactant donc 100 serveurs ainsi que ses sauvegardes sur l'intégralité de ses sites, donc au nombre de 15, avec une rançon de 9 millions de dollars. Il faut savoir que l'intrusion a été a été établie au travers donc d'un accès VPN distant les identifiants. Donc au niveau de la description de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le hacker s'est introduit dans le système d'information de l'assuré. Il y a une action de reconnaissance du terrain, déplacement au sein du réseau, et vol d'identifiant des administrateurs. Puis ensuite le déploiement du logiciel de rançon sur l'ensemble des serveurs et des postes de travail, puis la destruction des sauvegardes sur les 15 jours suivants. Donc c'est-à-dire que l'assuré, du coup, n'a pas vu tout de suite finalement cette attaque, puisqu'on là on parle vraiment sur un décalage de 15 jours. Et la découverte a été faite par l'assuré au travers de la filiale en Belgique, au travers des serveurs. Donc l'assuré a décidé d'isoler par sécurité l'ensemble du groupe par rapport à la Belgique et d'arrêter toutes les parties des machines chiffrées, et la période d'interruption des systèmes d'information a été de 6 semaines. Donc comment on a établi nous au travers de l'assurance la résolution de l'incident? Donc, il y a un dépôt de plainte qui a été traité par la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité et une commission faite auprès de l'ANSSI. Il y a un appel de fait auprès de l'assureur qu'on avait sélectionné à cette époque-là, donc qui était Chubb. Une investigation numérique établie pour identifier le scénario de compromission supposé et de confirmer ainsi l'identité de l'attaquant et d'obtenir toutes les traces et de fournir ainsi les conseils nécessaires. Une action de redémarrage de l'activité a été faite avec la société externe afin de limiter la perte d'exploitation. Il faut savoir que les pertes d'exploitation dans la cybercriminalité, c'est vraiment les enjeux qui sont majeurs. Là, on a été dans la décision, au travers de toutes les informations qui ont été établies d'investigation, de ne pas payer la rançon. Et il y a une tentative de négociation qui a été faite à hauteur de 600 000 dollars pour gagner du temps. Ça a été non payé. La récupération des données verrouillées par l'attaquant avec le soutien d'une société externe, grâce à des snapshots protégés qui n'ont pas pu être détruites par le hacker. Donc, ça a été fait 9 jours plus tard. Et un accompagnement qui a été fait auprès de la CNIL et une notification aussi aux salariés de l'incident concernant leurs données personnelles. Il faut savoir que c'est très important aussi. Les entreprises, souvent, n'ont pas cette perception suffisamment importante de l'impact que ça peut avoir auprès des salariés, tant sur la stress que sur leur productivité et vis-à-vis de la culture et de la vision qu'ils en ont de l'entreprise. Et ça, c'est pour ça que c'est important vraiment de communiquer de manière totalement transparente au niveau des salariés. Et ensuite, en dernier ressort, il y a eu une action de communication établie auprès des clients et des partenaires une fois que tout a été remis en état au niveau du système de l'assuré. Le coût du sinistre a coûté 335 000 euros, avec des frais de réponse à incidents qui ont été engagés à hauteur de 220 000 euros, des frais de remise en état de 100 000 euros, et des frais d'amélioration, puisque le but était aussi d'accompagner les clients post-crise à finalement le préparer pour améliorer son système, pour éviter qu'on se retrouve dans un nouveau sinistre dans les mois ou années qui viennent. Alors là, aujourd'hui, au travers finalement de la justification, parce qu'il faut savoir qu'on a des délais aussi de perte d'exploitation suivant les contrats, qui peuvent aller entre 10 jours et 3 semaines pour le déblocage du démarrage. Au travers des éléments qui ont été communiqués par les clients sur le fait de la perte d'exploitation, elle n'était pas suffisamment significative finalement pour être justifiée en termes d'indemnisation sur ce client-là. Donc, on a été vraiment concentré sur les frais de réponse et les frais de remise en état essentiellement. Quand on fait finalement une interview et un retour d'expérience suite à sinistre, on propose différents budgets d'amélioration avec des budgets minimums qui sont alloués aux clients pour finalement leur suggérer de se remettre en état. Après, il y a des clients, parce que forcément, vous avez aussi des plafonds de garantie par rapport aux frais d'amélioration. Donc là, on n'était pas du tout au plafond. Mais il faut savoir qu'on a des clients qui, derrière, ne souhaitent pas, enfin, veulent faire des frais d'amélioration minimes, d'autres plus importants et d'autres vraiment plus conséquents. Donc, on est aussi dépendant par rapport au retour d'expérience des clients, des améliorations qui peuvent être établies ou pas. Après, on a aussi des clients qui ont malgré tout des attaques où on avait quand même les systèmes qui étaient complets, qui étaient bien sécurisés, où malheureusement, bah, quand on veut rentrer, on veut rentrer quand même. Donc là, on était quand même sur une... Vous voyez, on avait quand même une grosse structure, on avait quand même une certaine sécurisation quand même des données. Donc, c'est pour ça que finalement, les frais d'amélioration, entre guillemets, ont été plutôt minimes, puisqu'on a quand même une entreprise qui est plutôt bien sécurisée au niveau du périmètre. Malgré tout, elle a quand même eu ce sinistre. Et ça, donc, le sujet a été vraiment orienté finalement sur le sujet VPN et sur les employés en mobilité, très clairement. On voit donc un autre sinistre, donc celui-ci, donc on est dans la distribution de matériel automobile, B2B et B2C, donc avec donc une structure aujourd'hui pour laquelle la chiffre d'affaires de la filiale touchait 220 millions d'euros et donc 2 milliards, donc c'est une grosse structure. Donc on a eu des attaques successives en DDoS sur des serveurs de la filiale italienne, impactant l'ensemble des points de vente. Le vecteur d'attaque, c'est une malveillance interne et surtout une faible sécurisation du site web italien qui portait vraiment des failles de faiblesse, notamment la protection de base de l'hébergeur. Donc la description de l'incident, si on rentre dedans, donc il y a une perturbation des serveurs dédiée à la prise de commande. Rendez-vous à la gestion des stocks, sachant que la première attaque a été faite avec une demande de rançon en Bitcoin à hauteur d'un million d'euros dans les 20 premiers jours. 20 jours plus tard, l'assuré a confirmé au hacker qu'il ne paierait pas la rançon. Et donc, il y a une nouvelle attaque et une indisponibilité plus large du système d'information avec une nouvelle date du paiement de la rançon. Donc, ensuite, des renouvellements d'attaques successives, des nouvelles demandes de rançon et toujours des refus successifs de l'assuré. Donc, au total, si on cumule l'intégralité des véritables jours d'indisponibilité, ça a été 4 jours. Mais par contre, il n'y a pas eu de vulnérabilité ou de faille de sécurité identifiée sur l'ensemble du groupe. On était vraiment uniquement isolé sur la défaillance du site web italien. Et donc, le système anti-DDoS sous-dimensionné a quand même ralenti fortement l'activité. On n'a pas dit qu'elle était complètement arrêtée, mais elle a ralenti fortement. Donc, au niveau de la résolution de l'incident, alors comment ça s'est passé? Donc, prise de contact avec l'assistance, donc analyse forensique pour identifier l'origine du sinistre par le biais de 3 experts différents, analyse des logs de connexion issus du proxy, puis décision de basculer sur des IP fixes afin de faciliter l'identification des serveurs attaqués pour justement les prochaines vagues. Le déploiement d'un WAF chez Akamai en complément de la solution existante de l'hébergeur. Une réalisation de tests d'intrusion pour s'assurer que l'attaque est cantonnée vraiment isolée sur les serveurs italiens concernés. Une restauration d'image auprès des clients et fournisseurs, parce que là, on était sur un groupe que, entre guillemets, qui a pignon sur rue, avec aussi des sites VAD. Après une analyse des logs, supposition de la culpabilité de l'ancien DSI, qui avait été licencié quelques semaines auparavant. Donc, en remontant l'information, on se rend compte que finalement, l'attaque est finalement provenue de l'interne. Donc, il y a eu un dépôt de plainte fait auprès des autorités italiennes, la mise en place d'un token, puis mise à jour des systèmes de gestion API, modification de tous les mots de passe en intégrale des utilisateurs, que ce soit employés, administrateurs. Et puis ensuite, il y a eu la culpabilité qui n'a jamais été réellement prouvée auprès du DSI, mais avec finalement de fortes probabilités que ce soit lui. Donc, le coût du sinistre est monté à hauteur de 700 000 euros, avec en investigation et enquête des frais à hauteur de 18 000 euros. Donc, tout ce qui est lié aux frais engageant toutes les relations publiques, 5 000 euros. Frais d'expertise pour contenir les attaques, 120 000 euros. La perte d'exploitation, puisque là, elle a été significative à hauteur de 390 000 euros. Et des frais supplémentaires à hauteur de 170 000 euros. Donc, vous voyez, dès qu'on commence à parler perte d'exploitation et frais supplémentaires consécutifs à sinistre, tout de suite, on passe à un niveau bien plus conséquent en termes de montant. Des questions sur ce sinistre ?
Dans les dommages, dans les premières slides, là, tu parlais dans les dommages immatériels liés au système d'information consécutif à l'acte de malveillance. Donc, tu prends en charge aussi l'acte de malveillance interne ?
Oui,
parce que là, c'est visiblement. Enfin, il n'y a pas de preuve définitive, mais on a toujours. Enfin, avec Laurent, co-animateur avec moi du groupe, on parle souvent du loup solitaire dans la société et qui est vraiment un élément à prendre en considération dans la cybersécurité.
Oui, oui. Toute personne interne, qui soit en CDI, CDD, stagiaire, intérimaire, toute personne interne, oui, tout à fait, l'indemnisation est due, même sur ce périmètre.
D'accord.
Alors, l'erreur humaine, ça, je vais plus laisser Mathieu qui est au niveau de la responsabilité.
Alors, il n'y a pas une protection par rapport à l'erreur, c'est plutôt qu'on peut attaquer s'il y a un acte intentionnel. C'est plutôt l'approche. Intellectuel va se faire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à tout le monde d'être up-to-date sur savoir je suis geek, je sais tout faire, quoi que ce soit. Bon. Donc, il peut y avoir une erreur qui est donc non intentionnelle. Bon. À partir du moment, en revanche, où on est en capacité de démontrer qu'il y a un caractère intentionnel ou deux, qu'il y a une violation délibérée d'une règle qui était imposée, du type la charte d'utilisation du système d'information disait il n'y a pas ça à faire et justement l'utilisateur l'a fait. Là, on a un moyen de poursuite en interne.
Le préjudice d'image causée, le préjudice lié à la réputation, il peut être établi, il est estimé par un expert qui sera dédié là-dessus, sur une éventuelle diminution de part de marché, sur une éventuelle, entre guillemets, chute conséquente de chiffre d'affaires. Oui, donc l'irréputation va être calculée. Après, dans le contrat RC traditionnel, on aura l'atteinte à l'image, mais qui est liée, par exemple, dans les médias, on parlait de l'agroalimentaire, s'il y a une autre problématique. Donc, c'est deux choses différentes. Hein. L'irréputation, c'est vraiment consécutive à un événement, à une attaque cyber.
Alors, donc juste petit rappel, mais je dirais, maintenant, on est sensibilisé, mais donc, une attaque en tant que telle n'est pas forcément un cas exonératoire de dire « je n'ai pas rempli mes engagements parce que j'ai été attaqué », et donc, c'était un cas de force majeure. Okay, ce n'est pas automatique. Donc, ça, c'est déjà important de dire, finalement, indépendamment d'une assurance, déjà, il faut que j'aie mis en œuvre des moyens qui me permettent plus ou moins de faire face à une attaque. Question qu'il faut se poser pour une attaque, c'est finalement qui souscrit une assurance, entre guillemets, parce que si vous êtes dans un groupe de sociétés, il faut savoir quelle entité va souscrire, pour quelle filiale ou pas, qui est couvert et qui assure quoi. Bon, donc ça, c'est important. Bien évidemment, et ça, Fleur pourra revenir dessus, c'est vérifier quand même ce qui est couvert, parce que la logique d'une police d'assurance, c'est de fonctionner par exclusion.
Tout à fait.
Donc ça, c'est quand même important. Et donc, bonne pratique à avoir aussi en termes contractuels, c'est quoi? C'est tous ici, vous pouvez être entre guillemets, par rapport à votre entité, client ou fournisseur de services. Et il y a toujours une clause qu'on garde pour la fin quand on négocie, c'est la clause de responsabilité en cas d'inexécution ou de dommage. Bien. Deux choses à savoir, on peut avoir un plafond de responsabilité, je n'ai pas exécuté ma prestation, je limite ma responsabilité à X, ok? Mais c'est quelque chose de totalement distinct d'un plafond d'assurance. Mon conseil est par principe, surtout si vous êtes côté donc prestataire qu'on vous l'impose, vous ne mélangez jamais votre plafond d'assurance avec un plafond de responsabilité. Pourquoi ? Votre plafond d'assurance, normalement, il est négocié pour votre société, quels que soient les clients, souvent. C'est-à-dire que c'est une assurance qui dit, bah, par an, je suis couvert pour X, quel que soit le nombre de sinistres ou par sinistre, ou des choses comme ça. Bon. Donc, il ne faut pas donner tout, entre guillemets, votre plafond à un client qui, si jamais il agit contre vous, il mange toute la part du gâteau et il ne reste plus rien pour les autres.
C'est ça. Okay,
donc, c'est deux choses à bien décorréler. Alors, quand on est côté client, bien évidemment, on pousse au maximum parce qu'on dit, je veux la plus grosse responsabilité, je suis toujours la plus grosse société, je risque toujours d'avoir le plus grand préjudice, donc je vends ça. Et donc, de temps en temps, effectivement, votre client va vous pousser pour vous faire aligner votre plafond de responsabilité, son plafond d'assurance. Il faut bien toujours, comment dirais-je, bloquer sur le point, ce sont deux choses totalement distinctes. Okay, la paresse d'un juriste va être effectivement de dire « je colle le plafond de responsabilité sur le plafond d'assurance parce que comme ça, je n'essaye pas de négocier la clause. Okay » Bon, mais il ne faut pas être sur cette logique-là, en tout cas, quand vous êtes du côté prestataire, bien distinguer ces deux choses, c'est vraiment essentiel. Et l'autre chose aussi, c'est effectivement de vérifier si vous prenez un engagement dans un contrat de dire « je suis couvert sur ça », bah, vous allez vérifier effectivement sur votre police d'assurance ou vis-à-vis de votre courtier si vous êtes oui ou non couvert. Ne prenez pas des fois des engagements démesurés où au final, si d'aventure le risque arrive, vous ne serez pas couvert. Parce que quel est l'intérêt finalement de dire « je veux un assureur dans un contrat bon. » Ça veut d'ores et déjà dire que finalement, on se dit que mon co-contractant, donc l'autre partie, si jamais il y a un dommage et un préjudice derrière, ne sera pas en capacité de payer le préjudice. Normalement, vous avez cette défiance-là. Donc, c'est pour ça que vous demandez une assurance. Bon. Et donc, ça, c'est la première logique. La deuxième logique qui se passe aussi, c'est que, au bout d'un moment, on va vous demander des choses extraordinaires. Je pourrais limite dire, de toute façon, ma société leur a coulé si vous me demandez ces sommes-là et mon assurance ne va pas me couvrir jusqu'au bout. Donc, de temps en temps, il faut aussi dire, surtout lorsque vous êtes, entre guillemets, une petite PME qui négocie contre des grands groupes, les grands groupes ont tendance à dire pour... Moi, j'ai déjà vu, hein, vous avez une petite solution SaaS qui est facturée 80 000 euros par an et en face, ils vous demandent entre 2 et 5 millions par an de plafond de responsabilité. Donc, au bout d'un moment, vous dites, bah, vous êtes gentil, le jour où vous agirez, de toute façon, ma boîte, elle coulera, je ne pourrai rien payer, puis je la liquiderai, donc ça ne vous sert à rien. Bon. Et donc, il y a cette approche risque, mais pragmatisme aussi à avoir par rapport à ça, ou alors éventuellement, des fois, de faire des assurances qui sont dédiées par client. Et avec une chose, moi, je te dis très clairement vis-à-vis d'un prestataire, plus vous demandez un engagement vis-à-vis d'un prestataire, pour moi, plus ça a un coût. Dit autrement, et ce que je ne trouve pas faire en négociation, c'est que vous avez négocié Votre prestataire, il a accepté des prix, des choses comme ça, et à la fin, on lui dit, oh, en fait, je vais t'envoyer le contrat, t'inquiète pas, c'est une formalité. Vous découvrez le contrat, et d'un coup, on vous dit, bah, mis à part en plus la ristourne que tu m'as fait, maintenant, je vais te demander une assurance de X. Et donc, c'est un coût fixe à la charge du prestataire, enfin, de la partie, qui est beaucoup plus important. Et par définition, un prestataire non plus n'est pas le réassureur de son client. Donc, alors, il y a la manière commerciale d'amener cet argument-là, mais il faut un petit peu que le marché aussi, au bout d'un moment, et une vision équilibrée de ne faut pas à chaque fois avoir des exigences telles sur des assurances qu'elles sont démesurées par rapport à ça. Alors, en toute transparence, quand vous négociez avec des grands groupes, souvent vous avez une couche de différents interlocuteurs où tout le monde est en charge du dossier, mais personne n'est responsable ou en capacité de statuer sur une clause. Bon. Et autrement, ils ont un peu des clauses types et quand vous arrivez là-dessus, c'est un peu du dur. Mais il faut tenir un peu le point parce qu'il y a une anormalité, il y a un déséquilibre sur certaines négociations sur ça. À l'inverse, bien évidemment, des fois vous êtes client et vous avez effectivement des prestataires ou vous recherchez vraiment une responsabilité, il n'y a pas grand-chose. Dernière chose, pourquoi avoir le nom de l'assureur et surtout demander en copie éventuellement au contrat une copie d'attestation d'assurance? C'est que si un jour vous partez en contentieux, vous allez vouloir mettre dans la cause éventuellement l'assureur. Vous agissez contre une partie. La stratégie, c'est de se dire éventuellement, je mets en cause aussi l'assureur. Pourquoi? Parce que l'assureur, il n'aime pas les contentieux. L'assureur, il va peut-être avoir envie de négocier et on va trouver une solution amiable plus rapidement sur le dossier. Bon. Si votre partenaire contractuel, vous avez dit oui, je suis assuré. Le jour où vous êtes en contentieux, vous dites bah, tu m'as dit que tu étais assuré, envoie-moi le nom de ton assureur. On ne répondra jamais. Okay? Jamais, jamais. Et donc, finalement, cet engagement que vous avez d'assurance, il ne vaudra rien parce que vous ne serez pas en capacité de mettre en cause l'assureur. Donc, il y a cette anticipation-là qu'il faut avoir aussi, de dire si j'ai une déclaration haute, bah, vous faites joindre un annexe, j'ai une attestation, éventuellement, ce qu'on fait, c'est. Tu redemandes tous les ans, on fait mettre à jour pour voir si c'est toujours les mêmes plafonds, des choses comme ça. Mais voilà, ayez le nom justement de l'assureur, parce que sinon votre engagement, vous aurez du mal à l'exécuter.
Je réinsiste sur un point que tu as dit sur faire corréler le plafond de responsabilité et le montant de l'assurance, notamment pour des prestataires SaaS qui parfois, si ils sautent le prestataire SaaS, ils sautent pour tous ses clients parce qu'en fait, c'est les mêmes serveurs qui vont être touchés et le sinistre, il devra le gérer pour tous les clients. Et l'autre aspect, c'est sur la communication de se faire communiquer le nom de l'assureur, voire de se faire communiquer la police, c'est que très souvent on se dit ah ben c'est bon, on me dit qu'il a toutes les assurances pour, sauf qu'en fait l'assurance auquel il pense spontanément votre prestataire c'est sa RC Pro,
Oui.
mais RC Pro dans laquelle par exemple il n'y aura pas l'aspect cyber qui couvre, parce qu'on n'en parle pas et Flan nous l'a présenté au tout début où c'est une assurance en plus et donc sur certains prestataires notamment dès qu'on va passer à des hébergeurs etc ben la RC Pro, ça ne sera pas suffisant. Donc les clauses
Exactement.
type sur s'engage à avoir une assurance lui permettant de couvrir ce à quoi il s'engage dans le contrat, ben derrière on va se faire juste communiquer, enfin on va penser RC Pro, mais ce n'est pas suffisant que si on est côté client. Donc là aussi, il y a des points d'attention à avoir si on donne toutes ces données à un tiers, autant s'assurer que derrière il y a les bonnes assurances, quoi.
Sachant que pour précision, même si c'est l'hébergeur qui finalement enfin, héberge vos données, en tant qu'assuré client, vous restez propriétaire de vos données. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes dans la responsabilité en cas de fuite des données, vous êtes en première ligne. Après, il y aura un recours fait éventuellement vers l'hébergeur, mais quoi qu'il en soit, c'est vous le propriétaire de la donnée. Il n'y a pas de transfert du risque parce que c'est chez l'hébergeur.
Alors là, voilà, on fait un peu le lien avec les pertes qui peuvent être indemnisées ou autres. C'est important aussi, ce n'est pas parce que vous dites éventuellement, bon, bah, c'est bon, j'ai une assurance à 6 millions en face que je vais pouvoir récupérer 6 millions. Okay? Il faudrait peut-être récupérer zéro ou quoi que ce soit. Une indemnisation d'un préjudice subi, bon, règle de droit basique, démonstration d'une faute, lien de causalité et préjudice. Un préjudice, quoi qu'il arrive, ça se chiffre et ça se justifie. Et donc souvent, des fois, on peut avoir factuellement effectivement un manquement ou on a eu un arrêt ou quoi que ce soit, mais la victime est dans l'incapacité de chiffrer son préjudice. Parce que ce n'était pas bien tracé, parce qu'on n'a pas d'éléments comptables ou quoi que ce soit. Et il y a différents éléments, c'est-à-dire que, par exemple, on dit oui, j'ai une perte d'exploitation parce que normalement, j'aurais fait tant de chiffres. Okay. Ça, c'est une perte de chance. Est-ce que j'avais 50% de faire ce chiffre-là? Est-ce que j'avais pas de chance? Est-ce que si j'avais subi l'attaque ou pas, j'aurais eu cette activité-là ou là, par exemple? Donc, il y a toute une analyse à faire en termes de justification d'un préjudice, poste par poste de manière détaillée pour dire, voilà, j'ai ces éléments-là, je peux justifier, voilà ce qu'il en est. Par exemple, je dis, mes salariés n'ont pas pu faire leur activité habituelle. D'accord, mais ça se trouve, ils ont fait autre chose à la place. Donc à ce moment-là, bah, j'ai pas d'indemnisation parce que je les ai réaffectés à autre chose. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont vraiment importants à justifier. Donc ça veut dire également que ça implique une certaine traçabilité. Je vous donne un exemple, vous avez une techno qui est pillée, okay, dans le cadre d'une cyberattaque. Vous dites, ma techno, elle était valorisée facilement 15 millions. Okay? C'est un truc génial. Vous avez quoi pour dire ça? Si vous n'avez aucune journée homme qui sont passés en R&D à mort dans les comptes, si vous n'avez rien du tout, parce que vous n'avez pas des éléments comme ça, bah vous allez avoir une difficulté énorme à tenter de justifier un préjudice par rapport à ça. Donc ça veut dire que indirectement par rapport à ça, ça vous force à être organisé en interne, surtout lorsque vous avez un patrimoine informationnel qui a de la valeur, à le documenter aussi par sa valeur, des choses comme ça. Parce que sinon, si d'aventure vous avez cet élément-là, vous allez avoir une difficulté. Et après, effectivement, alors Fleur a montré qu'il y avait eu possibilité d'indemnisation type atteinte, réputation, image. Là, on est quand même sur quelque chose à discuter du sexe des anges hein, pour savoir combien ça vaut. Donc, c'est quand même quelque chose parce que c'est très arbitraire et soit on a vraiment quelque chose où on voit bah, baisse totale d'une valorisation ou quoi que ce soit, d'une valorisation boursière qui serait liée à ça par rapport à ces éléments-là. Soit on attend, entre guillemets, pour voir que finalement, bah, on a des clients qui ont écrit en plus pour dire bah, comme vous êtes comme ça, maintenant on ne veut plus travailler avec vous,
C'est ça.
pour faire l'épreuve. Mais si c'est juste de dire c'est ça, ça aurait pu être autre chose qui n'avait rien à voir, ça aurait pu être une tendance du marché qui fait que votre chiffre d'affaires allait baisser, et ce n'est pas forcément une atteinte à la réputation et à l'image. Sachant que, alors, en droit, ça a été reconnu qu'une personne morale pouvait subir un préjudice moral, okay? Donc ça permet d'encadrer tout ce qui est atteinte à la réputation et à l'image. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. À chiffrer et je parle surtout au contrôle Flore à la rigueur. Vous mettez plus à disposition des moyens pour communiquer, pour éviter une atteinte à l'image que d'indemniser la réelle perte d'image, non?
Alors, il y a une indemnisation liée réellement à la véritable perte d'image effective, mais on est sur des sous-limites. C'est vrai que c'est plus l'aide entre guillemets, qui est déplafonnée. Par contre, je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, Mathieu, parce que moi, j'ai beaucoup d'interrogations quand j'ai des sinistres cyber, où j'ai mes assurés qui me disent, bon, bah, très bien, sur la gestion de crise, ça s'est très bien passé, j'ai été indemnisé très, très vite. Mais c'est vrai que sur la perte d'exploitation, j'entends souvent des entreprises qui vont dire, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, on n'est pas encore indemnisé au bout d'un an et demi. Pourquoi? Et ça rejoint ce que tu disais, Mathieu, il faut pouvoir justifier le vrai préjudice au travers d'une documentation consolidée pour démontrer que finalement, on ne récupère pas ce chiffre d'affaires qui a peut-être été, entre guillemets, diminué à une période, qu'il n'y a pas eu un rattrapage après, que ça ne s'est pas réorienté autrement. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus long à finalement à reconstituer, mais on est là très clairement à partir du moment où on a toutes les informations nécessaires pour indemniser de manière conséquente les pertes d'exploitation. Ah, ça, c'est important parce que j'ai beaucoup entendu d'entreprises qui pensent que l'assureur n'est pas là pour indemniser réellement la perte d'exploitation. Si, mais il faut que celle-ci soit documentée et qu'elle soit vraiment tracée. D'où l'intérêt, et c'est pour ça que je le dis à la souscription, de sensibiliser vraiment les clients. On met souvent en place ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, les plans de continuité informatique. Enfin, tous ces sujets-là sont importants pour pouvoir finalement après connaître tous les process et les outils et les documents nécessaires à communiquer justement pour pouvoir reconstituer cette perte d'exploitation. Et ça, c'est hyper important. Donc, je voulais quand même préciser une chose. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de modifications sur le marché de l'assurance quant au risque cyber. On n'en parlait pas plus tard que ce matin. Il faut savoir que les réassureurs aujourd'hui se posent l'interrogation déjà de la notion de risque aléatoire au titre du risque cyber, parce qu'aujourd'hui, le nombre de fréquences en risque cyber devient de plus en plus prépondérant par rapport à un risque incendie, un dégât des eaux où on devient sur le marché entreprise sur du risque, entre guillemets, quasiment certain. Bon, les assureurs aujourd'hui sont toujours quand même en appétit sur le sujet, même s'il y a en ce moment des négociations qui sont faites sur les niveaux de franchise, sur les capacités des différents assureurs. Par contre, il y a une chose nouvelle qui est arrivée, c'est l'authentification multifacteur qu'on ne prenait pas forcément en compte à la souscription avant, où on avait vraiment plutôt un questionnaire simplifié qui vérifiait finalement la qualité des sauvegardes, les antivirus, le fait qu'on ait juste ce qu'on appelait une authentification plutôt simple. Là, aujourd'hui, la MFA a complètement changé finalement l'approche au niveau des questionnaires de souscription. On revient sur des questionnaires qui sont beaucoup plus lourds sur cette méthode d'authentification. Est-ce que tout le monde est bien au fait justement de la définition de la MFA ?
Non, mais alors, juste avant la définition, ça veut dire que maintenant, je suis un fichu de donner une vraie définition de la MFA, mais dit autrement, c'est un standard qui fait que c'est même pas la peine d'espérer être couvert en cyber si on ne met pas en œuvre ces processus-là en interne ?
Tout à fait, je le confirme.
Ça veut dire, par Flore, ce que tu as dit, c'est que le standard de l'état de l'art est en train d'évoluer.
Oui.
Et qu'indirectement, on dit que si tu n'es pas en MFA, tu n'es pas bon d'un point de vue sécurité d'un système d'information.
Exactement, tout à fait.
Du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a contractualisé une assurance cyber il y a un an ou deux ans, aujourd'hui, on lui dit, il faut vous doter de la MFA, du coup, son contrat est rediscuté?
Alors, il faut savoir que, de toute façon, les contrats d'assurance en France sont renouvelés annuellement, mais par analyse des risques. Donc, à partir du moment où l'assureur estime que c'est un risque aggravé de ne pas avoir justement la MFA, il reste en droit de pouvoir résilier le contrat ou de le majorer très fortement. Je ne dis pas que pour les contrats en cours, il ne laissera pas les contrats, mais il sera conseillé fortement de se mettre en conformité sous un an ou deux.
Au moment des renouvellements.
Oui, oui. Les renouvellements. Ah. Par contre, sur toute nouvelle souscription engagée, ouais. Voilà, sur les nouvelles souscriptions aujourd'hui, je suis contrainte de toute façon de répondre dans le sujet, de savoir qu'ils sont bien conformes à l'authentification multifacteur. Ce ne sera jamais fait du jour au lendemain. L'assureur a un délai de prévenance à minima de 3 mois, de toute façon, pour indiquer. Et après, les mesures correctives, si on n'est pas dans une résiliation ferme, on a une mesure corrective qui peut être demandée dans les 6 mois à 1 an. Ouais. Ça va vraiment dépendre de la spécificité de risque et surtout de l'activité du client.
Et juste dans le détail sur la MFA, ça veut dire que l'ensemble des collaborateurs du périmètre qui est assuré doivent être dotés de la MFA. Il n'y a pas de subtilité
Non. Okay. C'est-à-dire que c'est comme on dit, donc sur la MFA, c'est toujours les facteurs. C'est quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous possédez, quelque chose que vous êtes. Et dans cette définition-là, entre guillemets, de la MFA, c'est minimum, c'est le mot de passe ou le code PIN. De l'autre côté, qu'est-ce que vous possédez ? C'est la sécurisation avec l'ordinateur portable, le téléphone. Après, le quelque chose que vous êtes, ça peut inclure les identifiants biométriques. Mais il faut savoir que maintenant, les éléments qui ne sont plus du tout acceptés en tant que facteurs, c'est la simple clé secrète partagée, l'adresse IP au Mac, le VPN ou une procédure de réauthentification mensuelle ou une authentification VOIP.
Il n'y a pas de droit d'audit dans les polices.
Non, il n'y a pas de droit d'audit.
Oui, bien sûr.
Alors, je confirme, il n'y a pas de droit d'audit. Par contre, c'est au moment de l'expertise ou sinistre, s'il est prouvé que le sinistre a une cause, si on voit que la défaillance est liée à un élément qui dit, il n'y avait pas une MF, par exemple, c'est lié à la sauvegarde et que la sauvegarde devait être un accès restreint au travers d'une MFA, typiquement, on va avoir soit une exclusion d'indemnisation, soit une franchise appliquée en fonction des assureurs.
La première version qui a été proposée, c'était de dire le ransomware peut être entre guillemets ici. Si effectivement j'ai fait une attaque système de traitement automatisé de données, que j'ai une demande d'extorsion, et que dans les 48 heures où j'ai payé, je dépose une plainte. Okay, c'était ça. Maintenant, la logique des textes est différente. C'est toujours cette attaque-là. Et à ce moment-là, c'est la justification d'un dépôt de pré-plainte dans les 24 heures suivant l'attaque. Donc, c'est vachement astucieux parce que les 24 heures suivant l'attaque, souvent, c'est découvert, mais 15 jours après l'attaque, parce que
Bien
l'attaque, elle
sûr.
a été faite. Et donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que le texte, tel qu'il est envisagé pour le moment, il crée déjà une insécurité, parce que découverte, oui, mais suivant l'attaque, là, enfin, tout le
Oui,
monde
c'est pas
sera
bon.
prescrit, quoi. Pour le moment, ce qui est l'évolution du texte, donc je pense que ça va remouliner dans un autre sens, mais en tout cas, le modèle a changé, déjà. C'est avant, c'est pas après. Donc, c'est pas avant paiement de la rançon, c'est pas après, déjà. Et c'est 24 heures, tu vois. Et honnêtement, je pense que tout le monde sera sur le pont s'il y a une attaque de cet ordre-là. Et si on en trouve un qui va dire, bon, je vais aller à la gendarmerie ou au commissariat aller faire ma pré-plainte ou quoi que ce soit, c'est pas évident dans les 24 heures, pour être honnête. Hein.
C'est vite, ouais, c'est clair.
Donc, surtout que c'est 24 heures, hein. Donc c'est un délai franc. Donc, alors, il y a une règle qui dit que l'article 641 du Code de procédure civile, on peut compter des jours différemment, mais je pense qu'on n'est pas encore rentré là-dedans. Je pense que l'amendement a été fait pour dire vraiment, c'est un peu trop facile de faire la plainte après, donc on va vraiment motiver le soir avant, d'accord? Ça a peut-être une vocation de dire on met aussi les services entre guillemets tout de suite sur le pont pour enquêter, sauf qu'il n'y a personne, des services judiciaires ou gendarmerie qui tout de suite dès qu'ils arrivent disent ok on va brancher un ordinateur, on va aller investiguer, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est un petit peu cet élément-là. En plus la pré-plainte, ok, et c'est le truc encore qu'on fait en ligne. Normalement vous devez être convoqué un mois après et puis en fait si vous n'êtes pas convoqué vous devez faire toute votre plainte et ça ne servait à rien. C'est des questions, mais en tout cas, c'est pas super pragmatique non plus pour le moment, la nouvelle version de texte. Donc voilà, donc on va suivre. En tout cas, voilà, le texte évolue, suivant les affinités ou pas de ceux qui faisaient des amendements qui étaient pour ou contre le texte. Donc voilà, on en est pour le moment sur ça.
On nous a demandé, nous, souvent, côté assurance, de savoir si on indemnisait ou pas le ransomware. Ça revient un peu à la problématique de droit aussi, de savoir, parce que c'est un peu délicat, on est à la limite. La plupart des contrats aujourd'hui indemnisent le ransomware, mais que sur des cas bien spécifiques, avec des activités sensibles, et que l'on sait que la perte d'exploitation sera bien plus conséquente si à un moment donné l'assureur se dit pas on prend le degré de risque avec la forte probabilité qu'on puisse récupérer la donnée. Donc il y a toujours une analyse qui est faite. Mais en tout cas, aujourd'hui, les rançons peuvent être payées par les contrats d'assurance. Mais ce n'est pas systématique, bien évidemment. Oui, parce qu'en fin de compte, à un moment donné, c'était posé la question quand on a travaillé sur ces produits-là, de se dire. Ça va peut-être être un peu facile. À un moment donné, le client qui se dit, bon, bah, j'ai des attaques régulières, allez, on me demande 10, 15, 20 000, 40 000, 100 000 euros, bah, allez, régulièrement, je sais que je récupère ma donnée. Ça pourrait, entre guillemets, faciliter le hacker de faire une attaque par trimestre et régulièrement faire des petites sommes pour que finalement ce soit indemnisé. Non, on n'est vraiment pas dans ce cadre-là. Là, c'est vraiment pour limiter. La perte d'exploitation, surtout de pouvoir faire redémarrer au plus vite l'entreprise quand on sait qu'elle n'a peut-être pas forcément la possibilité de remettre peut-être très rapidement en route les sauvegardes ou que les sauvegardes qui ont pas été, enfin qui sont encore saines, il faut remonter à très 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 loin pour récupérer la donnée. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que c'est suivant les aléas et le retour qu'on aura eu où on prendra le choix d'indemniser. Mais en tout cas, c'est clairement, si on voit qu'on revient finalement sur la même origine ou que c'est le même système et que c'est le même hacker, par exemple, bah, très clairement, on ne repérera pas parce qu'on sait que ça va être systématisé et qu'il va faire cette attaque régulière. Il faudrait que ce soit, entre guillemets, un fait malencontreux d'un autre environnement, d'une autre origine qui aurait justifié. Et dans ces cas-là, on pourra toujours aller taper dans le montant jusqu'à épuisement du plafond.
Aujourd'hui, il y a des clauses en fait qui, quand on a des événements, des catastrophes naturelles, des choses comme ça qui rentrent en compte, et notamment des actes de guerre en fait aussi, qui font que certains actes d'assurance, enfin, certaines couvertures d'assurance ne sont plus mises en place. Si demain on est attaqué, en fait on est un grand groupe, on est attaqué par un acteur auquel on sait il est rattaché en fait à un État. Lequel les assureurs en fait peuvent dire bah, non, la couverture d'assurance justement ne sera pas prise en
Alors, en
compte.
l'état aujourd'hui, je n'ai pas d'exclusion au titre du risque cyber. J'entends bien que uniquement de la police cyber. Je n'ai pas d'exclusion liée au fait que demain, si on avait une attaque d'ampleur donc de la Russie sur les différents serveurs, de ne pas être couvert. Aujourd'hui, parce qu'on ça revient un peu sur ce qu'on a connu aussi sur la perte d'exploitation suite à pandémie. Là, aujourd'hui, on n'a pas d'exclusion spécifique d'une attaque globale qui serait faite par un État, puisqu'on n'a pas, entre guillemets, de notion de d'État blacklisté qui viendrait finalement hacker un serveur en France comme en Europe. Il n'y a pas d'exclusion par rapport à ça. De trois assureurs qui sont vraiment très présents sur le cyber, il y a IG, Chubb et Allianz notamment. Alors Chubb, qui a quand même une grosse partie du marché de fait d'avoir eu à l'époque un questionnaire simplifié, n'est vraiment pas bloquant au niveau de l'indemnisation des ransomware, puisque en fonction notamment des activités, surtout les activités intellectuelles, on parle des avocats, des notaires ou autres, où là ils n'hésitent pas, finalement, parce que j'ai eu des cas récents, hein, c'est pour ça que je dis ça, ils vont préférer payer la donnée pour rapidement remettre en état la donnée, puisque forcément, ben, voilà, on parle, on va dire, des études d'avocat, on a des dossiers, forcément, régulièrement, la sauvegarde il y a 3 mois ne sera pas la même que toutes les données que vous pouvez avoir
Vous avez
dans
pas
les
de MFA.
dossiers actuels. Donc, très clairement, on n'a pas eu de déséquilibre spécifique des contrats d'assurance non-avant chez l'assureur Chubb au titre de l'indemnisation ransomware, puisque le retour d'expérience d'indemnisation fait que la plupart des ransomware qui, bien heureusement, ont été bien évalués, bien payés, on a récupéré la donnée et on a réussi après, par toutes les mesures de retour d'expérience et de sécurisation, que ça ne se reproduise pas. Et finalement, ça a coûté moins cher de payer la rançon à l'assureur que de payer la perte d'exploitation qui aurait été consécutive. Donc, c'est la première chose. Après, on a des gens comme AIG qui vont être, entre guillemets, beaucoup plus exceptionnels sur le paiement des rançons, parce que là, on est sur un assureur qui assure vraiment les grands groupes, donc on est sur des montants un peu plus conséquents. Et on a, à contrario, un Allianz qui, lui, refuse catégoriquement de payer du ransomware, parce que pour eux, ils estiment que ça entraînerait la récurrence de fréquence des attaques sur sur une seule et même entreprise.
C'est les grands groupes maintenant passent sur une logique d'auto-réassurance, entre guillemets, ou il y a un petit peu de ça ou pas?
Alors, les très très grands, oui, pour la raison suivante, c'est qu'on a des plafonds en termes de capacité, sûrement en montant ou par sinistre. Et c'est souvent chez des très très grosses structures. Comme on sait, quand il y a le sinistre, c'est des montants très importants. En général, vous avez un épuisement, c'est un sinistre par an. Donc
D'accord.
forcément, c'est là où on a été finalement coincé, ce qu'on n'a pas sur le marché de la PME, PMI et de la plus petite structure. C'est là où on a une grande différence.
La start-up Michelin.
Voilà, donc c'est pour ça que moi je suis pas inquiète, parce que bon déjà ça a un coût, une captive, il y a une réglementation qui entoure aussi la captive, puisque derrière vous avez l'obligation d'avoir quelqu'un qui a une formation Orias, qui vous intégrerait quand même en gros une société d'assurance dans votre propre entreprise, ni plus ni moins. Donc forcément, il faut avoir aussi les capitaux, vous avez les règles solvency qui vous demande aussi d'avoir des fonds propres en corrélation. Donc forcément, ce n'est pas dans les petites structures que vous pouvez créer ce type de structure.
Genre 95% des entreprises aujourd'hui n'ont pas d'assurance cyber. Est-ce que
Oui.
tu as...
Ah, tout à fait. Moi, systématiquement, lors de mes rendez-vous prospection clients, bah, je leur explique quand même que le risque cyber est extrêmement important. On a encore cette culture du chef. Alors, au niveau de la DSI, au niveau des directeurs financiers, c'est bien enregistré et eux, ils sont très proactifs sur l'intérêt de pouvoir assurer le risque cyber. On a encore des directions aujourd'hui qui, entre guillemets, font état d'une organisation qu'ils estiment non perfective et pour eux, c'est ça arrivera aux autres, ça n'arrivera pas à nous. Et on a, entre guillemets, encore cette culture prédominante de je suis meilleur que les autres, donc moi, ça ne m'atteindra pas. Et c'est quand même triste, mais c'est souvent finalement post-sinistre que là, on a des clients qui sont finalement à plébisciter ces assurances. Et pour l'instant, c'est encore ça. J'ai quelques clients qui m'ont fait faire des devis cyber où ils ont rentré le questionnaire et sur lequel où ils sont, comme on dit, pas prêts aujourd'hui au niveau de la sécurité, mais ils comprennent sur quoi ils peuvent évoluer pour pouvoir avoir ces garanties. Donc en général, moi, j'ai la plupart des entreprises qui sont souvent mûres au bout d'un an, où ils ont établi des process, ils ont mis des mesures qui permettent finalement de pouvoir après avoir accès au contrat. Mais souvent, il y a des, entre guillemets, il y a beaucoup d'échanges qui sont établis et de sensibilisation en amont, vraiment de la souscription d'un contrat. Pour certains DSI ou certains DAF qui n'arrivaient pas à convaincre finalement de l'importance de réorganiser, de sécuriser l'ensemble du système d'information, le fait d'avoir les questionnaires, d'avoir la possibilité de dire on peut être rassuré ou pas, certaines directions ont changé d'avis en disant bah oui, bah finalement, on va quand même mettre un budget parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas assurable. Et il y a quand même une sensibilisation qui peut être faite par rapport à ça aussi. En fait, le problème des assureurs aujourd'hui, c'est que si on commence à faire des exceptions ou de se dire, bon, bah voilà, la MFA n'est réservée qu'à une certaine, on va rentrer dans un système très complexe de tarification et de souscription. Je pense que on est parti, enfin, ils sont partis sur un cahier des charges bien spécifique, avec, entre guillemets, une tolérance dans finalement le déploiement de tout ça. Mais malheureusement, on tend de toute façon à sécuriser parce qu'on sait que ça va de toute façon, ça va être un risque. L'entreprise, dans sa vie ou dans les 5 ans, elle sera forcément à un moment donné victime d'une attaque. Tôt ou tard, ça arrivera.
Juste une petite question complémentaire. Et les assureurs ne demandent pas à missionner une société spécialisée pour réaliser justement
Un
une.
audit en amont?
Ouais, c'est comme
Pas
ça en
encore.
passant.
Pas
Ah.
encore. Ça viendra. Tôt ou tard, ça viendra, je pense.
Ben, oui, parce que le déclaratif, c'est bien, mais bon, après, ça permet de jouer sur les causes, enfin, sur une déclaration qui est
C'est évident.
ce qu'on trouve un peu partout, c'est le manque de personnel disponible pour effectuer ce type de tâche, hein.
Évidemment.
On est en
On va te
manque
cloner.
flagrant de personnel, hein, de pentesteurs, de tous les gens dans le monde de la cybersécurité. On est en manque vraiment de compétences.
Merci beaucoup à tous.
Allez, merci à tous.